d'Henri IV à Haussmann.
Voilà, c'est ça.
Henri IV, parce que c'est vraiment le moment où ce quartier a pris son identité. Même plus que sous Henri IV et par Henri IV, que ce quartier est devenu celui que nous connaissons. Avant Henri IV, c'était la ville médiévale. N'y avait pas de grosse différence entre le Paris du Moyen-Âge et le Paris de la fin du XVIe. Pas grande différence, mais quand même. Il y avait deux fleurons du quartier médiéval, quand Henri IV fait son entrée dans Paris en 1594. Deux fleurons du Paris médiéval qui venaient d'être détruits. Le premier des deux, c'était l'hôtel Saint-Paul. L'hôtel Saint-Paul, c'était un grand domaine sur la rue Saint-Antoine. Disons, pour le situer, c'était à peu près entre aujourd'hui la rue Saint-Paul et la rue Beautreillis en largeur et en profondeur jusqu'à la Seine, ou presque. Mais on dit hôtel, mais ce n'était pas vraiment un hôtel. Ce n'était pas un bâtiment unique. C'était un ensemble de bâtiments dans des jardins, avec des ménageries, des serres, des volières. Enfin, c'était une féerie, l'hôtel Saint-Paul. Pourquoi ça a été détruit? François Ier était toujours à court d'argent. Donc il l'a loti, vendu, et ça a été démoli. Mais c'était la résidence des rois de France, les Valois en particulier, quand ils n'étaient pas en train de faire la guerre en Italie ou de s'amuser sur la Loire, ils venaient là, ils venaient à l'hôtel Saint-Paul. Ils n'allaient pas dans le vieux Louvre qui était une forteresse mal commode et glaciale, ils allaient à l'hôtel Saint-Paul. Bon, ça s'était détruit sous François Ier. Et l'autre fleuron, c'était les Tournelles, le château des Tournelles, qui était juste en face, de l'autre côté de la rue Saint-Antoine, là où il y a aujourd'hui la rue des Tournelles, disons à peu près là où il y a le statut de Beaumarchais, quoi, ce coin-là. Et l'hôtel des Tournelles, ça avait été fait par les Anglais, le duc de Bedford, pendant la guerre de Cent Ans. À un moment donné, les Anglais étaient les maîtres à Paris, et le duc de Bedford avait construit ça pour avoir une résidence, un peu de... Voilà. Et... Le nom vient probablement du fait qu'il y avait beaucoup de tours. Bon. Et ça a été démoli par punition. Parce que dans ce château, le roi Henri II, au cours d'un tournoi, s'est fait tuer. Il combattait contre un type qui était un grand seigneur qui s'appelait Montgomery. Mais pas anglais. Hein. Montgomery. Voilà. Et la lance de Montgomery s'est cassée. Et là, du coup, ça a fait une grosse pointe. Hein. Ça ne s'est pas cassé net, ça s'est cassé en pointe. Et la pointe est passée dans la visière du casque. Et... Alors, Catherine II, sa veuve, a dit, puisque c'est comme ça, on démolit l'hôtel. Ça se faisait hein, sous les rois, là, de punir les bâtiments. C'est comme ça que l'opéra, qui était là où il y a aujourd'hui le square Louvois devant la vieille BN, là. Cet opéra a été détruit parce que c'est là que le duc de Berry a été hein, aussi un bâtiment qu'on a puni. Il a été poignardé, il sortait de l'opéra où il venait d'écouter chanter sa maîtresse, et il a été poignardé par un type qui s'appelait Louvel. Bon. Et donc on a détruit l'opéra, on l'a reconstruit ailleurs. Donc Henri IV. Henri IV, il trouve... En arrivant à Paris, une ville dévastée, une ville en ruine, dévastée par les guerres de religion et surtout le très long siège, 3 ans, 4 ans de siège. Paris était tenu par la Ligue, c'est-à-dire les catholiques intégristes, et les rois, d'abord Henri III puis Henri IV, faisaient le siège de Paris. Ça a laissé une ville en piteux état. Et la première chose qu'ont décidé Henri IV et Sully, c'est pour ça que je dis, le quartier, il a vraiment été fait pas sous Henri IV, sous et par Henri IV. La première chose qu'ils ont décidé, c'est qu'il fallait qu'il y ait un endroit où les gens puissent se promener et se réunir. Il n'y avait pas de place dans Paris. Parce que la place de Grève, c'était un truc pour les ouvriers, puis c'était un machin tout petit qui descendait en pente vers la Seine, c'était pas une place. Il n'y avait pas de place. Donc, ils ont construit la place royale. Bien sûr, comme vous savez tous, qui est la place des Vosges, nommée place des Vosges pendant la Révolution. Alors, cette place royale, qui n'était pas seulement une résidence, qui était aussi un endroit où il y avait une manufacture de draps, il y avait des magasins de luxe, il y avait très rapidement des dames qui faisaient commerce de leur charme. Enfin, c'était vraiment un endroit formidable, quoi. En 1633 ou 34, quelques années avant le Cid, le jeune Corneille écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Place Royale. Une comédie qui s'appelle La Place Royale. C'était tellement à la mode qu'on disait la place tout court. Hein. Les gens, les Parisiens disaient on va à la place. C'était la place. Et c'est à partir de cette place que s'est constitué le Marais que nous connaissons. Les grands hôtels du Marais, ceux qui datent de cette époque, disons, cette grande gloire du Marais qui est la première moitié du XVIIe siècle, l'hôtel Sully, l'hôtel de Mayenne, l'hôtel d'Almeyras, rue des Francs-Bourgeois, l'hôtel Chalon-Luxembourg, enfin tous ces hôtels, bon, vous connaissez ça, hein, je ne vais pas vous énumérer les hôtels baroques, on dit baroques, du Marais, mais il n'y avait pas que de l'architecture, il y avait une vie extraordinaire. Bon, les grands architectes qui construisaient ces hôtels, ils habitaient tous. La Mansart, comme vous savez, il a sa maison rue Payenne. Le Vau, il habitait le Marais. Mansart, je viens de le dire, il habitait le Marais. Libéral Bruant, il avait son hôtel rue de la Perle, qui est devenu le musée de la serrurerie. Donc les grands architectes de cette époque habitaient le coin. Le père Mersenne, au couvent des Minimes, qui était rue de Béarn, non, rue de Béarn. Rue de Béarn. Il avait réuni une bibliothèque. Combien il y a ici? 20 000?
Oui, à peu près. Oui.
Ben voilà, lui, il avait aussi réuni une bibliothèque scientifique, philosophique de 20 000 volumes. Il donnait l'hospitalité à Descartes, parce que Descartes, il n'était pas toujours en bonne relation avec le pouvoir. Donc, quand ça allait mal pour Descartes, il venait. Le président Lamoignon, dans son hôtel, qui est Renaissance, qui est d'avant, qui est la bibliothèque historique de la ville de Paris, hein, qui était l'hôtel de Diane de Poitiers. Le président Lamoignon, tous les lundis, il y avait des séances où venaient lire, présenter leur travail, le jeune Racine, La Rochefoucauld, disons que La Bonne Société considérée un peu de travers comme Marion Delorme ou Ninon de l'Enclos, et aussi des dames très très vertueuse, Mademoiselle de Scudéry, qui a été rue de Beauce. C'est là qu'elle a écrit le Grand Cieus avec la carte du temps, tout ça. Donc, une activité artistique et intellectuelle extraordinaire. Et le quartier avait son théâtre, le théâtre du Marais. Et c'est là qu'en 1637, on a joué une pièce qui a eu un succès inimaginable, qui était le Cid. Ah, c'était vraiment une époque formidable. C'était vraiment. Si vous voulez, le Marais était à ce moment-là ce qu'a été par la suite, au XVIIIe siècle, le Palais Royal, fin XVIIIe, début XIXe, hein, le Palais Royal qui était aussi le centre du monde. Hein. Quand les officiers alliés sont entrés dans Paris en 1814, la première chose qu'ils ont faite en descendant de cheval, c'est d'aller dîner au Palais Royal. Et ensuite, le Palais Royal, ça s'est arrêté quand les jeux de hasard ont été interdits dans Paris. Année 1835, par là. Et à ce moment-là, le centre de la vie intellectuelle, artistique, etc., s'est décalé pas très loin de 400 mètres vers le nord sur les boulevards. Les boulevards, boulevard des Italiens, boulevard de Montmartre, ont été le centre de tout jusqu'à qu'à la guerre de 14. Après la guerre de 14, c'est moins clair. Hein. C'est polycentrique. La vie intellectuelle, artistique, mondaine, demi-mondaine, elle est moins clairement localisée après la guerre de 14 qu'avant. Même s'il y a Montparnasse. Même si... Mais enfin bon. Donc le Marais reste, sans qu'il y ait de lien causal, jusqu'au moment où Louis XIV décide de construire Versailles. Reste le centre, Mais à ce moment-là, disons dans les années 1680, quoi, à ce moment-là, l'aristocratie dit, je sais pas ce qu'elle disait, mais enfin, on voit bien que cette noblesse, ils en avaient marre de ce quartier qui, au fond, était des rues étroites. C'était sombre, il n'y avait pas d'air. Puis en plus, en bas, il pouvait y avoir une bonne femme qui vendait des poireaux ou des chiffonniers. On rencontrait n'importe qui. Ça n'allait pas. Donc, ils ont émigré en masse vers l'ouest, vers le faubourg Saint-Honoré et surtout vers ce qui allait devenir le faubourg Saint-Germain. Faubourg Saint-Germain, c'est un drôle de faubourg d'ailleurs, parce que c'est un faubourg sans faubourg. Comme d'ailleurs le faubourg Saint-Marceau. Aux deux extrémités de l'échelle sociale, de l'éventail social, il y a deux faubourgs qui n'ont pas de faubourg. Mais enfin, le faubourg Saint-Germain, la reine Margot, la première femme d'Henri IV, elle possédait un très grand terrain parallèle à la Seine. Elle, son hôtel était rue de Seine. Mais, et à partant de là, elle avait une bande, pas très large, mais très longue, le long de la Seine. Et elle l'a lotie. Et ça a donné les rues qui existent toujours, rue de Lille, Verneuil, Université. Ces trois parallèles. Qui sont devenus les axes du faubourg Saint-Germain. Après, ça s'est développé au-delà, mais le faubourg Saint-Germain, c'est là qu'il a son origine. Le Marais a perdu son lustre, son éclat à ce moment-là, et il est progressivement devenu pas un quartier de pauvres, mais un quartier un peu de laissé pour compte de la vie. C'était pas le faubourg Saint-Marcel. C'était pas un quartier de chiffonniers et de crève-la-faim. Non, un quartier de gens. Alors, il y a des gens, des contemporains qui l'ont très bien décrit, ça. Sébastien Mercier, tableau de Paris, qui écrit sous Louis XVI. Donc, un siècle après le phénomène que je viens de dire, quoi, l'émigration de l'aristocratie du Marais vers l'ouest de Paris. Les tableaux de Paris, c'est les années 1780. Voilà. Alors, le Marais. Ici, vous retrouvez du moins le siècle de Louis XIII. Tant pour les mœurs que pour les opinions surannées. Le Marais est au quartier brillant du Palais-Royal, ce que Vienne est à Londres. Là règne non la misère, mais l'amas complet de tous les vieux préjugés. Les demi-fortunes s'y réfugient. Là se voient les vieillards grondeurs, sombres, ennemis de toutes les idées nouvelles. Et des conseillères bien impérieuses y frondent, sans savoir lire, les auteurs dont les noms parviennent jusqu'à elles. On y appelle les philosophes des gens à brûler. C'est Mercier, c'est magnifique, c'est toujours drôle et bien vu. Alors, ça continue au XIXe siècle. Balzac jeune, hein, il écrit Histoire et physiologie des boulevards parisiens. Et c'est une longue promenade de la Madeleine à la Bastille. Il fait le tour complet des boulevards. Le Cadran Bleu, le Café Turc, ça. Déjà, le Café Turc, ça va plus très bien. Le Café Turc qui était. Je sais qu'il était à hauteur du Bataclan. Là, il arrive dans la partie vraiment qui borde le Marais, fille du calvaire. Bientôt commencent des boulevards déserts, sans promeneurs, les landes de cette promenade royale. L'ennui vous y saisit. L'atmosphère des fabriques se sent de loin. Il n'y a plus rien d'original. Le rentier s'y promène en robe de chambre, s'il veut. Et par les belles journées, on y voit des aveugles qui font leur partie de cartes. In pisem desinit elegantia. Ça veut dire l'élégance se finit en queue de poisson, quoi. On y expose sur des tables de petits palais en fer ou en verre. Les boutiques sont hideuses, les étalages sont infects. La tête est à la Madeleine, les pieds sont au boulevard des Filles du Calvaire. Dans la comédie humaine, il y a un personnage emblématique du Marais, c'est le cousin Pons. C'est un des deux cousins pauvres, hein, l'autre étant la cousine bête qui habite, elle, au Carrousel, hein, rue du Doyenné, quand le roman commence. Donc le cousin Ponce, qui est aussi sympa que la cousine bête est terrifiante. Un brave type, hein, qui gagne sa vie, vous vous souvenez, en jouant du violon dans les théâtres du boulevard du crime. Il gagne sa vie comme ça. Et il habite où? Il habite rue de Normandie. Il habite rue de Normandie, une de ces vieilles rues à chaussée fendue, où la ville de Paris n'a pas encore mis de borne fontaine, et dont le ruisseau noir roule péniblement des eaux ménagères de toutes les maisons qui s'infiltrent sous les caves, et y produisent cette boue particulière à la ville de Paris. La comédie humaine, c'est que des histoires de boue, ça n'arrête pas. Les gens prennent des fiacres pour pas avoir leur bac crotté. Donc voilà, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, le Marais, c'est ça. Sous Haussmann, Haussmann n'a pas le temps, il a juste le temps de faire une percée haussmannienne importante dans le Marais, c'est la rue de Bretagne, d'un seul côté. Et il avait un projet terrible, un peu aussi terrible que celui de prolonger la rue de Rennes jusqu'à la Seine en travers. Et ben, de prolonger la rue Étienne-Marcel jusqu'au boulevard Beaumarchais. Ce qui aurait ratiboisé tout le grand axe historique du Marais, Michel Lecomte, rue des Audriettes, rue de la Perle, tout ça, ça aurait été démoli. La défaite de Sedan nous a évité bien des malheurs. Non, c'est vrai. Et alors, on peut dire qu'au fond, Rambuteau, il a fait au moins autant que Haussmann sur le Marais, hein, parce que Rambuteau, il avait, qui était le préfet de la Seine sous Louis-Philippe, prédécesseur d'Haussmann, Rambuteau, il avait percé la rue Rambuteau, qui porte son nom à tout à fait juste titre, et qui est pas mal. Voilà. J'avais dit jusqu'à Haussmann, mais bon, au fond, finalement, cette décadence du Marais, elle dure jusque dans les années 50 du XXe siècle. Les plus vieux d'ici se souviennent bien d'un Marais sale, noir, pauvre, pas du tout à la mode. Et les cours étaient encombrés par des appentis avec des toits de tôle, il y avait des charrettes, enfin c'était un quartier jusqu'à, disons, jusqu'à Malraux, quoi. Ce qui s'est passé après, évidemment, tout a été passé au savon noir à la brosse à dents, c'est devenu impeccable, avec des effets collatéraux très graves, quoi. C'est-à-dire que les pauvres, on les a plus vus, ils sont partis ailleurs, et c'est remplacé par l'omniprésence de la fripe et des bars branchés, hein. La fripe rue de Turenne, hein, c'est pas besoin d'aller bien loin pour voir ce que donne l'uniformisation par la fripe d'un quartier. Enfin bon, ça a eu un effet quand même que c'est pas tombé en morceaux, quoi. Ça aurait pu. Bon, j'ai essayé de pas être trop long pour qu'on puisse discuter. Parce que c'est toujours le meilleur moment, hein, c'est le moment où on discute.
Absolument. Mais moi, je suis arrivé à la bibliothèque des Amis de l'Instruction en 89-90. Il y avait déjà des gens qui étaient ici. Et même si le quartier n'a pas tellement changé au niveau de la forme des bâtiments, par contre, la population a complètement changé. Ah ouais. C'est-à-dire que les membres de la bibliothèque, je crois, d'ailleurs pour les plus anciens, diront qu'il y avait 3 ou 4 soirées par semaine.
Ah oui.
Plus le dimanche matin. Et c'était des gens du quartier. D'abord, la majorité des sociétaires habitaient le troisième, hein, en très grande majorité. Ils venaient ici.
C'est pas le cas aujourd'hui?
Du tout, il n'y a plus. Enfin, si, il y en a quelques-uns. Enfin, il y a très, 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 très,
très. Ah oui, ah oui.
Très, très, très.
Ah peu. Oui.
Mais donc, on arrive déjà à couvrir un peu tout Paris, mais sinon, c'est limite. Et à l'époque, c'était un lieu de réunion. Les gens discutaient. En bas, ça a quand même complètement changé, parce qu'en face, on avait une personne qui nous faisait des affiches, parce qu'il y avait des... Monsieur Sauvert, absolument, enfin, les plus anciens pourront nous expliquer la manière dont ça se passait, mais la majorité des gens étaient à 300 mètres, quoi. Ah
oui,
c'est complètement, c'est complètement terminé.
Mais mon atelier, il y avait beaucoup de des bronziers, de la bijouterie, des staffeurs. Enfin bon, c'était tout à fait différent. La population du 3e a été divisée par deux depuis les années 50.
Moi, je discuterai la notion de pauvre. C'était pas des gens pauvres. Ce sont des classes populaires parce qu'elles ne savent pas le latin. Mais c'est des gens qui avaient des sous. Je veux dire, tout ce qui était bronzier d'art, tout ce qui était lié aux halles, tout ce qui était métier extrêmement raffiné. Bah, ton père. Hein. Bon, enfin, ces gens qui faisaient des fermoirs à secret pour la haute couture, etc. La rue Michel-le-Comte, on imagine que les gens qui faisaient des bureaux très raffinés au 19e siècle étaient au Faubourg Saint-Antoine. Pas du tout, rue Michel-le-Comte, etc., etc. Donc, c'était des couches dites populaires. Attention au 19e siècle, ça veut dire n'a pas le bac en latin, basta. Mais ce sont des gens qui avaient des sous.
Pas forcément des locataires des immeubles, c'était des taudis.
Oui, mais attention, même parce qu'on n'accordait aucune importance à l'apparence de soi à travers le logement. Et que ça, c'est un code social bourgeois que n'avaient pas nécessairement des couches populaires. Cela dit, dans chaque immeuble, il y avait les premiers, deuxièmes, sur-rues, qui étaient un peu des appartements d'apparat. Et puis après, il y avait même des gens très aisés qui s'en fichaient et qui vivaient tout à fait dans un cadre qu'on qualifierait. Enfin, moi, je me suis tapé toute la lutte contre les expropriations quand on a fait la rénovation de l'îlot Saint-Martin, etc. Oui, à la fin, à l'extrême fin, c'était des gens souvent qui étaient là parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Et là, pour ce qui était l'entreprise de spéculation de la Cogedim, il y avait effectivement, à ce moment-là, 80% de gens qui ne pouvaient même pas entrer en HLM parce qu'ils n'avaient pas les revenus suffisants. Mais ça, c'était l'extrême fin. Sinon, il y avait quand même une population beaucoup moins démunie qu'on ne croit. Enfin, voilà, je ne veux pas être trop longue.
Moi j'ai souvenir quand j'étais petit, j'allais avec mon père les dimanches matins acheter des pirouchkis chez Goldenberg. Et le quartier juif, c'était vraiment des pauvres. Pauvres. Misérables, en guenille.
Les artisans étaient riches, mais les locataires qui étaient avec des toilettes dans les cours ici, c'était la rue de Turenne, c'était épouvantable dans les années 50-60. Il y avait de l'herbe comme ça, place des Vosges.
Ouais.
Ah, je voulais juste ajouter quelque chose. Quand vous parliez des gens pauvres, dans le livre qui s'appelle « Je me souviens du Marais », il montre comment l'hôtel Sully a été transformé en clinique des yeux. Et si vous allez aussi à l'hôtel Saint-Aignan, on les prie de ne pas nettoyer, de ne pas effacer complètement, parce que sur une des colonnes, c'est marqué « confection ». C'était devenu là où on confectionnait des chapeaux.
Et si on revient à l'histoire de la BAI, c'est qu'à l'origine, donc, on avait bien des artisans du quartier. On a les premiers, enfin on a sur notre site, les premiers lecteurs, donc les premiers inscrits de la bibliothèque. Et là, on a vraiment tous les métiers, y compris tout un tas de métiers qui ont complètement disparu. Et je vous invite à aller regarder cette partie-là de notre site parce que vous allez découvrir vraiment la manière dont était occupée
la population
du quartier. Et donc, c'est le reflet de 1860, 60, 65, 70. On voit bien que là, c'était essentiellement des artisans, des ouvriers. Ce sont eux qui ont d'ailleurs créé cette bibliothèque au départ du mouvement. Après, ça s'est étendu dans le reste de Paris. Mais les premiers lecteurs de notre bibliothèque sont un très beau reflet de ce qu'était le quartier à l'époque.
Dans les années 60, encore. Oui.
Moi, j'aurais une autre question sur la rue des Rosiers et le côté juif de la rue des Rosiers. C'est à quel moment ça arrive? Bon, la synagogue de Guimard, il y en a plusieurs dans le quartier, il y a celle de la rue des Tournelles aussi. Il y a quand même tout un marquage de l'espace par une communauté qui a d'autres façons de vivre par rapport aux traditions du Marais. À quel moment ça se cristallise?
Je pense que c'est fin 19e siècle.
Oui.
quand ils sont chassés oui. de l'Europe de l'Est.
Voilà.
Ben
oui. Voilà.
Les tout premiers. Là.
Quand ils commencent à y avoir.
Oui, voilà. Quand, avec les pro... oui, quand ils peuvent.
Quand ça commence, quand ça commence à chauffer en Russie.
En Pologne.
Oui. Enfin, la Pologne étant russe à ce moment-là. Dans les années 1890.
Mais ça veut dire que même à ce moment-là, il peut y avoir des mouvements immobiliers, pas de spéculation, je ne pense pas, mais des mouvements d'appropriation immobilière, tels qu'une communauté peut se regrouper à l'intérieur de Paris.
Au début du XXe siècle, puis après, vous avez eu le 11e arrondissement pour tous les Juifs qui venaient de Turquie. Donc, il y a eu beaucoup les Polonais sur la partie rue des Rosiers. Ensuite, après, ils ont été vers le 18e arrondissement, de mémoire. Et puis après, un point spécifique pour le 11e.
Je voudrais quand même préciser, l'implantation rue des Rosiers, que c'est, à mon avis, plus ancien, ça date du Moyen-Âge, tout simplement qu'il y avait des hôtels,
des
grands personnages, et donc il y avait déjà une micro-communauté qui était déjà installée là.
La rue Ferdinand Duval, elle s'appelle rue des Juifs.
C'est
un nom, effectivement.
Ah oui.
Ah oui, tout à fait.
Et Couf.
Je crois que c'est un signe de changeur.
Ah ouais, ah ouais.
C'est comme un épervier, je crois. Ouais. C'est un oiseau.
Donc il y avait une très très vieille tradition.
Oui.
Micro. Voilà, beaucoup moins importante que celle qui est arrivée au 19e avec les vagues d'Europe de l'Est et puis après aussi les vagues d'Afrique du Nord.
Il y a eu. Ça c'est beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard. Après que la première vague ait été quand même passablement massacrée.
Parce que dans les recensements de 1820, par là, il y a 3-4 familles vers la rue Rambeto. C'est tout.
Oui, c'est ça. J'ai des micros que
vous avez. Oui, mais ça existait. Ça existait.
Parce qu'elles étaient vers Montbourg, les 3-4 familles. Ouais.
C'était par rapport à Alphonse Daudet qui habitait l'hôtel de la Moignon, je crois, et donc qui décrit, enfin qui habite un petit morceau, enfin tout petit, donc il décrit donc un habitat de petits appartements. Il le décrit dans, je crois, c'est Fromangène et Risler-Aîné particulièrement. Alors, quand il a écrit ce roman-là, il habitait l'hôtel de la Moignon, et ce qu'il décrit dans Fromangène et Risler-Aîné, c'est vraiment ce qu'il vit dans son logement là de l'hôtel de la Moignon dans le quartier. Voilà. Ces artisans, là, ils sont là, exactement. Il y a une partie des deux là, qui s'enrichit et qui va essayer de vivre plus chic ailleurs. Voilà. Je ne me trompe pas.
On a le même exemple pour l'hôtel de la Moignon, avec les parents de Clotilde Devaux. Quand Auguste Comte se rend chez les parents de Clotilde Devaux en 1845, ils habitent dans l'hôtel de la Moignon,
Oui, il y avait beaucoup d'appartements.
Ce sont des simples locataires, des gens déclassés, finalement, des gens pas riches.
Est-ce que le quartier du Temple, c'est-à-dire l'enclos du Temple, peut être considéré comme étant le marais?
Quand même, pour les activités dont vous parliez, là, les bronziers, ça se raccroche au marais par là. Voilà. C'est le nord, jusqu'à la place de la République, qui est évidemment, comme vous savez très bien, quelque chose de récent. Mais c'est pas pour rien d'ailleurs, c'est un quartier populaire. D'ailleurs, l'International était rue de la Corderie. La rue de la Corderie était très importante dans le mouvement ouvrier de la fin du 19e.
Alors, une autre question, on parlait tout à l'heure de la bibliothèque des Amis d'Instruction. Est-ce qu'il y a d'autres traces un peu durables dans le Marais de coopératives ouvrières qui sont encore affichées? Je pense à la Belleville-Loise, là-haut, à Belleville, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore des traces comme ça qui sont visibles, même comme traces, dans ce quartier?
Le syndicat des casquetiers, il avait sa bannière, son drapeau rouge, où l'inscription était en yiddish. Dans le coin, il y avait une classe ouvrière juive, quoi, les bundistes qui, après la révolution de 1905, ils sont arrivés ici, ils n'ont pas pour autant renié leurs opinions, et c'est des rouges.
Et est-ce que, à ce propos, vous savez les trois cafés où ils se réunissaient près de du cloître des billettes?
Non, je ne savais pas.
Eh bien, il y a trois cafés qui aujourd'hui sont archi-chic et oui. très fréquenté, et ben c'est là où ils se réunissaient. Et comme la plupart, ils ne savaient pas, ils parlaient que le yiddish, il y avait des traducteurs pendant les séances de...
Du syndicat.
Oui.
Alors vous parliez de Balzac tout à l'heure, juste petite information. Balzac a été élève à la pension du Pitre, 39 rue Turenne, quasiment. Et Balzac est resté un an élève à la pension du Pitre, il s'est fait expulser pour mauvaise conduite.
Il était interne, monsieur.
Il était interne. Ouais. Mais c'est, son père habitait à l'hôtel Salé. À l'époque où c'était divisé en appartements, voilà, avant que ça devienne l'école centrale et puis après le musée Picasso. Voilà. Donc c'est probablement pour ça qu'il connaît très très bien aussi le quartier et qu'il a vécu dans un peu la noirceur des immeubles, parce que l'immeuble était dans un état assez mauvais, on va dire ça comme ça, après avoir connu les fastes du Marais au 17e.
Ça veut dire qu'au 19e, la majorité de ces hôtels étaient déjà lotis en appartements.
Et ce qui est très curieux, nous, en fait, c'est deux, là je vous cite un petit peu, deux immeubles mitoyens, copropriété unique, et qui a été vendu en appartement en 1950. Et vendu majoritairement aux gens qui habitaient l'immeuble. Donc ces petits appartements qui progressivement se sont agrandis. Et quand vous dites que la sociologie du Marais évolue, moi dans l'immeuble, j'ai des gens qui y sont nés. Avec toutes les histoires de la dernière guerre, où des appartements ont été occupés et rendus protégés par les habitants de l'immeuble. Là, au 39,
au 39
37 et 39
Rue Turenne.
Rue Turenne, voilà. La sociologie est assez particulière parce que, effectivement, on a des gens qui sont restés modestes, mais qui ont eu la chance d'acheter leur appartement. Leurs parents d'acheter leur appartement dans les années 50, et puis après, progressivement, les appartements sont vendus, et donc on a vu arriver une autre population. Mais on a la chance de garder cette sociologie si particulière, avec ce mélange de confessions aussi. Hein. Donc ça, c'est sur Balzac. Alors, sur Henri IV, je vais tempérer un petit peu votre propos en disant que le Marais a commencé avec Henri IV, et avait commencé avec Henri III. Tout simplement parce que le monastère Sainte-Catherine du Bal des Écoliers a été loti, parce que les chanoines avaient besoin d'argent. Donc toutes ces belles rues en angle droit qu'on voit derrière la place des Vosges, c'est la couture de Sainte-Catherine. Donc effectivement, Carnavalet est antérieur à oui. Henri IV.
Enfin, refait par Vinçard.
Bien sûr, mais le bel hôtel Carnavalet, l'hôtel initial...
C'est Lescaut.
Voilà, ça, effectivement, est un peu avant. Il y avait déjà de très très beaux hôtels, oui, de grands hôtels, et pas des immeubles de rapport, comme après. Vous avez raison, sur la place des Vosges, effectivement, c'était complètement différent. Mais il avait commencé un petit peu avant. Et je reviens à mon immeuble du 37-39, là, qui a été conçu à l'origine par le médecin d'Henri III, qui s'appelait François Miron. Et je ne sais pas si vous avez lu des vies de Henri III, mais il semblerait qu'il y ait eu des folles bacchanales dans le quartier, avec le roi déguisé, et au point où l'église était absolument scandalisée du comportement du roi. Et il ne venait pas aux Tournelles, il venait chez François Miron.
Je croyais que François Miron était prévôt des marchands.
Oui, mais, c'est ça qui a marqué oui, sur la rue François Miron.
Il s'appelait aussi François Miron.
Ah, c'est un homonyme. C'est un homonyme.
C'est la même famille. Donc c'est peut-être pas François, je me trompe, mais c'est Miron, c'est le médecin du roi d'Henri III qui l'avait accompagné en Pologne et qui avait fait construire le premier immeuble, qui n'était pas une grande maison, mais justement sur les terrains lotis par les chanoines de Sainte-Catherine de la Couture de... La petite place que vous connaissez, maintenant le monastère a complètement disparu, c'est pas la révolution qui l'a fait disparaître, l'église a été détruite aux alentours de, je pense, 1780. Voilà. Et donc, par contre, la place a été conservée, puisque c'était une place de marché.
Voilà. Henri IV et Sully, ils avaient un autre projet grandiose, oui. Qui aurait tout changé, qui aurait tout changé dans Paris s'il n'y avait pas eu Ravaillac. Mmh. C'était la place de France. Ouais. Oui, là. C'était une place semi-circulaire dont le diamètre était à peu près sur le boulevard des Filles du Calvaire en regard de ce qui est aujourd'hui le cirque d'hiver. Là, c'était le rempart. Hein. Donc, le demi-cercle était sur le rempart avec un fossé. Et il y avait ce grand demi-cercle d'où partait une série de rues rayonnante, oui. Qui portait les noms de provinces françaises. Alors, il reste de ça, bizarrement, ça, j'ai jamais compris pourquoi. La rue de Belém, elle a cette forme arrondie, alors qu'elle n'était pas...
Elle
n'était pas dans le coup. Alors que des rues rondes à Paris, il n'y en a pas beaucoup, alors qu'il y avait une idée de rondeur. Donc, comment cette rue de Belém, pourquoi elle est comme ça, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est certainement lié à ce plan avorté. Et puis, il reste des noms de rues, quoi. Les Clébos, Poitou, tout ça, ça date. C'est un reste. Alors, finalement, si on réfléchit, les trois grandes places Henri IVe de Paris, c'est les trois figures fondamentales de la géométrie. Le triangle, place Dauphine, le carré, place des Vosges, et le cercle, place de France. C'est pas par hasard. Il y avait des gens qui réfléchissaient. Et le demi-cercle, il était à l'intérieur de la ville.
Ah oui, c'est ça. Et la rue de Belém est la seule rue, je crois, de Paris qui commence et qui termine dans la rue de Turenne. Dans la même rue.
Oui.
Il y en a une autre à Montmartre. L'armée d'Orient.
Ah oui.
Et le Pic, rue de Pic.
Oui, oui, oui.
Vous avez la rue de l'armée d'Orient.
Vous avez parlé du cousin Ponce. Alors, c'est intéressant de voir le rapport entre le métier exercé par quelqu'un et l'endroit où il habite. Donc, il était chef d'orchestre dans un théâtre parce que à cette époque-là, je peux ramener ma science parce que j'ai écouté une conférence des amis de l'instruction, n'est-ce pas ? Alors, je suis très au point sur le sujet. Au 19e siècle, en gros, tous les théâtres, y compris les théâtres parlés, avait quelques musiciens en permanence qui jouaient des intermèdes, qui étaient là lorsque l'action suggérait un bal, un défilé, etc. Il fallait bien de la musique. Donc, il ne devait pas y avoir 50 musiciens dans chaque théâtre, hein, je ne pense pas. Et il y avait des choses très codifiées sur les entrées en scène de certains personnages. Par exemple, il y avait toujours une contrebasse pour annoncer le traître ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, voilà. Et donc, le cousin Ponce, je ne sais pas, on ne sait pas trop quelle était l'importance de l'orchestre qu'il dirigeait, mais quand même, il avait un emploi. Et je crois même qu'il avait un aide qui le remplaçait éventuellement s'il n'était pas disponible. Il n'habitait pas dans un endroit très, très, très reluisant, donc ça ne devait pas être très, très bien payé, quoi.
C'est non, non, c'est un pauvre. Il fait partie des parents pauvres. Digne. Propre.
Ouais. Par rapport au mari, j'ai une autre question. Toujours sur cette rue Saint-Antoine, il y a une magnifique église qui s'appelle Saint-Paul-Saint-Louis. Oui. Et un peu...
Ah oui, Saint-Paul, oui.
Oui, Saint-Paul.
Et un peu plus loin, il y a le temple protestant.
Oui. Alors, oui, la visitation.
Comment ça se fait, oui, voilà. Comment ça se fait que pendant ce quartier qui, où les nobles habitaient, où le roi n'était pas très loin puisqu'il était au Louvre, on ait pu construire un temple protestant.
On n'a pas construit un temple protestant.
C'était
l'église. La visitation de Sainte-Marie. Alors, à quel moment a-t-on décidé de le donner aux protestants?
C'est Napoléon.
Napoléon.
Je pense que c'est Napoléon.
Ah ouais. Ah oui, c'est possible.
Oui, oui. Comme l'oratoire.
L'oratoire de Louvre.
Ça se visite d'ailleurs, l'église. Et il y a le bureau de Saint-Vincent de Paul.
C'était la chapelle du couvent des Visitandines. Qui allait de la rue Saint-Antoine quasiment jusqu'à la Seine.
C'est une œuvre de mansard, c'est un dôme parfait.
Oui.
Ah oui, 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 absolument.
Parfait. Il y a une exposition en ce moment au musée Carnavalet sur les transformations du Marais des années 60
et il y a en particulier des photos sur justement cet état de délabrement de certains îlots qui sont...
Elle est passionnante, cette exposition.
Elle est bien.
Très intéressante. Ouais. Ouais. Très intéressante.
Ah oui, ça, oui.
Les couleurs
ça,
du marais.
Oui. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, par rapport au
festival de théâtre qui avait été lancé à un moment dans le marais et qui avait justement produit cet effet d'intérêt pour ce lieu-là et que du coup ça avait été en même temps préservé et en même temps fait qu'il y avait des investisseurs qui étaient arrivés.
Dans la cour de l'hôtel Sully.
L'association qui existe toujours, Paris Historique, et rue François Miron, qui est qui s'est créée, cette association. Le but, c'était de sauver le Marais. Maintenant, ça n'est plus du tout. Enfin, c'est beaucoup plus vaste. Oui, oui, et donc, c'est eux qui, au départ, ont organisé, pas seuls probablement, mais ont organisé ce festival, le festival du Marais. Et avec la chance de pouvoir y intéresser les stars, entre guillemets, du moment, donc des gens, des noms connus, etc. Et donc, voilà. C'est eux qui géraient au niveau financier. Et ils faisaient tout, l'ouvreuse, l'occasion des 50 ans, il y a 2 ou 3 ans. Donc, il y a eu un petit livre qui a été édité, qui est en vente, rue François Miron, sur le souvenir de ces années-là, vu par les gens de l'association. Enfin,
justement, dans l'exposition du musée Carnavalet, il y a les premiers programmes des concerts ou des représentations.
Et sinon...
Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé, disait... est-ce que c'est vrai que les gens quittaient la place des Vosges dans les années 60 pour aller à Sarcelles? Alors, moi, je suis née juste en 49, donc je fais des lectures d'enfants dans les années 60, et des romans pour enfants, en particulier avec un auteur qui s'appelait Saint-Marcoux, mais il y en avait d'autres. Ce qui était dit dans tous ces livres, il y en avait plusieurs, c'était donc des enfants qui commençaient, l'histoire commençait, ils habitaient un vieux quartier de Paris, Place des Vosges, Cour de Rouen, Place du Palais Royal. Et ce qui était formidable, c'est que là-dessus, eh bien, ils allaient déménager pour aller justement dans des immeubles neufs. Alors, par exemple, je me souviens d'un titre, parce que je m'occupe pas mal de littérature, je ne suis pas du tout spécialiste, mais enfin de littérature de jeunesse. Et je me souviens par exemple d'un titre qui s'appelle « Mon village au bord du ciel ». Donc là, c'est une famille qui va déménager dans une tour au 10e étage, donc au bord du ciel. Et alors ça, c'est quelque chose de formidable. Voilà comment on va recréer le village, etc. C'était quand même quelque chose qu'on essayait de nous dire « c'est ça qui est bien ». Alors en même temps, il y avait quand même, pour être honnête, dans ces livres, une description des richesses du passé, des richesses patrimoniales du passé, etc. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de démolir. On ne s'était pas ça, au contraire. C'était essayer de former notre jeune esprit à respecter les vieilles pierres et à vouloir les mettre en valeur, mais pas pour habiter, finalement, pour ces gens ordinaires que nous étions. Enfin, il y avait cet esprit-là.
Vous avez tout à fait raison.
Une réponse un peu à cette...
L'idée... que c'est bien d'habiter dans de l'ancien, c'est récent. Les personnages, on parlait de Proust tout à l'heure, aucun n'habite dans de l'ancien, à part Swann. Ils habitent tous les quartiers modernes, chics, du 8e et du 17e arrondissement.
Il y avait une salle de bain dans le village.
Oui, c'est sûr, tout ça.
Voilà. Bien sûr. On était un petit peu comme ça.
Le nom de l'auteur,
Saint-Marcoux. Mais Colette Vivier, j'aime bien
mes gens.
Oui, voilà. À part ça, c'est un très bon auteur. Oui. C'était bien écrit, c'était des choses, et toujours assez documentées. Enfin, bon, moi, c'est un peu mon dada. Mais Colette Vivier, qui est un auteur pour jeunesse aussi, mais plus, je dirais, engagé plus sur la gauche et la laïcité. Saint-Marcoux est une femme catholique et pratiquante. Mais enfin, dans ses livres, ça ne se ressent pas. Elle ne fait pas du prosélytisme de ce côté-là, mais elle est quand même. Bon. Et Colette Vivier, c'est pareil. C'est aussi. Quitter Paris, absolument, ça c'est le point essentiel. Une famille qui va essayer de s'en sortir et pour le bien de ses enfants, c'est quitter Paris.
Bien. Je crois que.
Merci.
On vous remercie.
Mais moi, c'est moi qui vous remercie. C'est un vrai plaisir.
Encore plus.